Une fois encore, Jésus démontre son immense pouvoir sur la maladie et sur la mort. Il guérit 10 lépreux et les délivre d'une maladie affreuse, car la lèpre vous prive de tout. Elle vous ronge le visage, les mains et les pieds. Elle est aussi une maladie qui terrorise, car elle sépare le malade de sa famille et fait de lui un exclu de la société, un paria, et en ce temps-là même, selon la loi de Moïse, quelqu'un d'impur. On en guérit rarement. Quand on l'attrape, pardonnez ce qui n'est pas un jeu de mots, quand on l'attrape, on est condamné à vie. On est comme dans le royaume des morts. De condamnés qu'ils étaient, donc, nos 10 lépreux sont comme ressuscités. Ils retrouvent une place dans la société. Tous ont recouvré une santé parfaite, sans rien payer, sans remède contraignant, sans convalescence pénible. Oui, Jésus leur rend un service immense et entièrement gratuit. Et c'est donc proprement incroyable qu'en contrepartie, seule une personne revient pour le remercier. Nous sommes en face d'un récit qui paraît à première vue très clair, presque caricatural, je dirais, tellement le comportement ingrat de neuf est extrême. Et nous avons même tendance à confondre ce récit de guérison avec une parabole, tellement les personnages sont typés. Il y a le Samaritain qui tient le beau rôle, personnage régulièrement utilisé par le Christ dans ces paraboles pour souligner l'incrédulité des Juifs. Et puis il y a les neuf ingrats, dont certainement personne ne se reconnaît en eux. Non, non, chacun de nous, dans le fond de son cœur, condamne et se dit « Moi, je n'aurais certainement pas agi de la sorte. » Oui, proprement scandaleux. Le verset central de ce récit se trouve, me semble-t-il, au verset 19, lorsque le Christ déclare « Ta foi t'a sauvé ». Le lecteur attentif se rendra compte que le cœur de ce récit est plus qu'une question de reconnaissance et de politesse élémentaire, que le Samaritain a gagné plus que de la reconnaissance et du respect de la part du Maître pour son geste, tout comme les ingrats ont, eux, perdu plus qu'une occasion de se comporter dignement. Nous le savons, les miracles de Jésus sont des signes qui indiquent son rôle messianique. D'ailleurs, les Juifs assimilaient la guérison de la lèpre à une résurrection. Or, la résurrection d'un mort est le signe de l'avènement du royaume tant attendu. Ce signe montre qu'il y a là plus qu'un simple guérisseur. Il est en réalité une invitation à s'attacher au Messie, à rechercher sa présence, à compter sur son aide, car il peut réparer tout ce qui va de travers dans nos vies. Mais attachons-nous maintenant à rechercher ce qui nous concerne dans le comportement des uns et des autres bénéficiaires de l'amour du Christ. Ces 10 hommes ont donc bénéficié d'une intervention surnaturelle complètement inespérée. Et qu'ont fait les 9 miraculés, ceux qui ne sont pas revenus rendre grâce? Le texte ne le dit pas précisément, mais nous pouvons raisonnablement supposer qu'ils ont continué leur route pour aller faire ce que Jésus leur avait ordonné, c'est-à-dire se montrer aux prêtres du temple à Jérusalem. Car guéris, ils ne l'étaient encore pas officiellement, mais se trouvaient dans une sorte de no man's land entre guérison médicale et guérison administrative. Alors bien sûr, on veut d'abord assurer, comme on dit, d'abord avoir le certificat en main qu'il est rétabli dans leur dignité d'homme et qui leur permet de se réinstaller dans la société, de revoir sa famille et de retrouver une profession. En outre, la loi prévoit un sacrifice d'action de grâce à présenter au temple, et donc ils auront aussi l'occasion par là de remercier l'Éternel pour leur guérison. Ont-ils oublié leur bienfaiteur? Probablement pas. Ils ont très certainement raconté comment ils avaient été guéris et quel personnage merveilleux était ce Jésus. C'est grâce à lui qu'ils ont retrouvé leur place dans la société. Mais que peuvent-ils faire de plus pour eux? Ne leur a-t-il déjà pas tout donné? Ils ont vu en Jésus un guérisseur, pas le Messie attendu, malgré le signe. Souvenons-nous de la réponse du Christ à Jean emprisonné et qui avait envoyé ses disciples avec cette question « Es-tu le Messie ou devons-nous en attendre un autre ?» Et la réponse de Jésus « Allez raconter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles retrouvent la vue, les infirmes marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts se réveillent. » La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. En disant cela, il ne fait que reprendre des prophéties du prophète Ésaïe. Et il ajoute cette mise en garde. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Luc 7, verset 18 et suivant. Heureux, dit Jésus, heureux celui qui ne se trompera pas de personnage en me voyant, qui ne me confondra pas avec quelqu'un d'autre. Non, manifestement, 9 des lépreux guéris n'ont pas compris qui était celui qui les avait rétablis dans leur santé et n'ont donc pas éprouvé le besoin de s'attacher à lui. Pour eux, Dieu est à Jérusalem, dans le temple, pas sur les routes de Samarie et de Galilée, en train de visiter son peuple. Peut-être les 9 ont-ils aussi pensé « Il peut le faire, donc il doit le faire ». Ils le connaissaient comme un rabbi bon et doté de puissants pouvoirs. Aujourd'hui, ne parlons-nous pas aussi souvent du bon Dieu? Alors, quand on le prie, c'est quelque part normal qu'il exauce. Cela ne lui coûte rien. Tandis que nous, cela nous tire d'embarras, cela rétablit une situation injuste. À raisonner ainsi, vous comprenez bien que la guérison ou la réponse à des prières est vite perçue comme un dû, comme un droit, et non plus comme un bienfait résultant de l'amour de Dieu. Et rendre grâce devient alors superflu ou devient un geste de pure forme. Ils ont tous été guéris et le sont aussi tous restés. Jésus n'a pas repris ce qu'il avait accordé, malgré l'ingratitude. Et depuis la création, frères et sœurs, c'est ainsi. Dieu se montre patient avec l'homme. Je vous propose de faire un grand retour en arrière et de revenir quelques instants au début de notre Bible, dans le premier chapitre de la Genèse, au verset 28, et c'est Dieu qui parle, il est dit « Faisons l'humain à notre image ». Dans les versets qui précèdent, nous lisons « Dieu dit, Dieu fit, Dieu créa ». Et se met en place la lumière, le ciel, la terre, la verdure, les animaux. Un scénario qui se déroule au pas de charge, sans hésitation. Et puis, à l'aube du 6e jour, le ton change. Faisons l'homme à notre image. Tiens, un monologue de Dieu. Une réflexion personnelle. Dieu se parle à lui-même. On croit percevoir comme une hésitation de la part du Créateur avant de franchir un pas décisif. Comme si Dieu percevait déjà que ce dernier acte créateur, le couronnement de son travail, sera aussi la crucifixion de son œuvre, car le pouvoir remis entre les mains de l'homme allait contribuer à gâcher la création tout entière. Mais Dieu a misé sur l'homme. Il l'a mis à la place de number one de sa création. Et Jésus, de la même manière que son Père l'a fait avant lui, parie aussi sur l'homme. Il ne pose aucune condition à son geste, mais envoie simplement ses 10 hommes vers les prêtres qui seuls, selon la loi de Moïse, peuvent les déclarer purs. Et c'est bien le signe de l'amour éternel de Dieu envers l'humain. Il l'aime malgré ce qu'il est, et il le laisse libre de ne pas vouloir revenir à lui pour lui rendre le culte qui lui est dû. Frères et sœurs, il existe une autre forme de lèpre qui nous ronge et qui nous entraîne immanquablement vers la mort. Cette lèpre, c'est notre révolte permanente à l'égard de Dieu et notre persistance à ne pas vouloir revenir vers lui. Nous tous qui sommes rassemblés ici ce matin, nous sommes des miraculés en quelque sorte. Nous avons été délivrés de cette terrible maladie. Alors comment se manifeste notre reconnaissance à Dieu et à l'Église? Sommes-nous engagés et reconnaissants? Combien de gens échappent aussi à un accident, retrouvent du travail, guérissent d'une sale maladie, gagnent bien leur vie, prospèrent dans la paix et la sécurité, profitent largement de ce qu'ils reçoivent de la main de Dieu? Et ils ont dépensé pour le hasard, pour la chance, pour les progrès de la recherche médicale, pour leur bonne étoile, mais pas pour le Créateur. Oui, beaucoup de croyants ont crié comme les lépreux, « Seigneur, aie pitié de moi !» Et aussitôt tirés d'affaire, ont oublié de reconnaître en Dieu leur Seigneur. Des hommes et des femmes qui ont pourtant expérimenté dans leur chair l'exaucement de leurs prières. La reconnaissance fut sans lendemain. Prenons donc garde de ne pas nous précipiter dans nos églises chaque fois que tout va mal pour nous et d'en oublier le chemin lorsque l'épreuve est passée et que le soleil, lui, à nouveau au-dessus de nos têtes. Heureusement, comme dans la parabole de la semence jetée sur différents terrains, avec la gratitude pousse aussi un peu de reconnaissance. 1 sur 9 donc fait demi-tour. Il retrouve Jésus. Il tombe le visage contre terre et le remercie. Nom d'une pipe, c'est un Samaritain, un mal vu des Juifs, un exclu du peuple élu. Et lépreux par-dessus le marché. Qui pourrait bien avoir pitié de lui? Eh bien, le voici comblé. Cet étranger a bénéficié d'une guérison totale, absolue, immédiate, sans condition, sans restriction. La bonté de Dieu est descendue dans son âme comme un rayon de soleil. Du coup, ça a été la révélation, l'éblouissement. Lui qui avait le moins de prédisposition à la foi, il a vu que le Seigneur est bon pour tous, que son amour s'étend à tous les hommes, quel que soit leur rang, leur race, leur dignité. Et il rend gloire à Dieu à haute voix, parce qu'un bonheur comme ça, vous pensez bien qu'on ne peut pas le garder pour soi. Pourquoi aurait-il honte de Jésus qui a fait la démonstration de sa bonté et de sa force? Il veut retrouver celui qui lui a fait du bien et l'adorer comme le Messie. La reconnaissance devient aussi un témoignage, plus qu'un long exposé théologique. Raconter la guérison inattendue dont il a été le bénéficiaire frappe la foule et touche les cœurs. Premier bienfait. Et Jésus, le voyant revenir, lui dit « Ta foi t'a sauvé ». De quoi donc ? De la mort physique, mais il lui sera donné de mourir de toute manière. Non, par ces quelques mots, le Christ le déclare publiquement que ce lépreux a fait le bon choix. Par ces mots, il lui donne à comprendre qu'il a été guéri d'une maladie plus terrible que la lèpre, le péché qui ronge l'âme, et qu'il a échappé à une mort plus définitive que la mort physique, la séparation éternelle d'avec notre Créateur. Jésus de Nazareth est vraiment le Sauveur d'Israël, et il a été donné à cet homme de le reconnaître. Second bienfait. Ta foi t'a sauvé, ta foi t'ouvre les portes du royaume. Comment discerne-t-on Dieu à l'œuvre dans le monde? C'est la question, je pense, que tous nous posons régulièrement. Le Samaritain a su voir. Il a vu qu'il a été guéri et sait à quel point cela ne dépend que de la parole de ce Nazaréen. Il a vu la main de Dieu à l'œuvre. Il revient non pas parce qu'il est poli, mais parce qu'il s'est regardé et qu'il s'est vu guéri. Et il veut s'attacher à ce Jésus. Ce miracle a aussi eu un impact sur les pharisiens, et j'arrive aux deux derniers versets de notre lecture. Mais eux, ils étaient tellement certains qu'ils y avaient droit, comme on dit, qu'ils n'ont pas demandé où est le royaume de Dieu, mais quand arrivera-t-il? Ce qui était sous leur nez, ils ne l'ont pas vu. Jésus nous dit que le royaume est là où des hommes et des femmes sont rendus capables de se voir guéris et reviennent rendre gloire à Dieu ainsi qu'à l'auteur de leur guérison. C'est cela la foi qui sauve. Ouvre mes lèvres, dit le psalmiste, pour que je dise tes merveilles. Que Dieu nous préserve de ressembler à ce qui fut autrefois le peuple élu. Nous sommes des lépreux guéris. Louons Dieu de tout notre cœur. Revenons sur nos pas pour lui dire notre joie de le connaître et d'être aimé en Jésus-Christ. Il a fait tout à merveille et il nous réjouit comme personne. Amen.